Deux voilà.
Parce qu'elle manque des images.
D'accord. Alors, bon, merci d'avoir respecté les 5 minutes de pause, mais c'est pas tout à fait ça. Alors, nous commençons la dernière et la troisième et dernière table ronde. On n'a pas énormément de temps, mais vous aurez peut-être si un quart d'heure chacun, vous aurez de quoi. Bon,
on parle de 10 minutes.
Alors, essayons de faire 10 minutes.
Ouais. Ce que tu avais dit au début. Hein.
Merci beaucoup. Alors, mais je donne, pour commencer, je donne la parole à Jean-Paul qui vient du Rwanda. Quand même, c'est 10 minutes depuis qu'il est allé, ça ne va pas vraiment le faire.
Alors, un quart d'heure.
Alors, je pense qu'on va lui donner un quart d'heure.
Il vient loin, de
merci
loin,
beaucoup.
On lui laisse.
Alors, donc, Jean-Paul, tu as un quart d'heure, mais si tu peux le dire en 10 minutes, ce sera très bien.
Okay. Ça, c'est normand, c'est pas tout de suite, ça, c'est normand. Pardon pour
alors, le... Merci Marcel, et merci à toutes les personnes qui sont là, pour nous écouter. On m'a demandé de vous parler de la reconstruction sociale du pays, en me basant un petit peu sur mes travaux de recherche, et notamment le livre que j'ai écrit récemment, que j'ai sorti récemment, sur le processus de reconstruction. Mais peut-être avant d'aborder la question de la reconstruction sociale en tant que telle, il faudrait peut-être qu'on parle aussi un petit peu de la déconstruction sociale, pas dans le sens de Derrida, mais dans le sens d'une déstructuration. De ce lien social-là. Un des paradoxes du génocide, et je pense que maintenant c'est quelque chose d'assez connu, notamment par les travaux d'un certain nombre de personnes, et surtout de Hélène en particulier, c'est la proximité extrême entre une grosse partie des tueurs et une grosse partie des victimes. Et de là, je pense qu'on fait quelquefois des conclusions un peu hâtives en disant que en étant très étonné par cette proximité très forte. Et je pense que, même parmi les chercheurs, il y a quelquefois une conception qui n'est peut-être pas tout à fait correcte de la nature des relations entre beaucoup de ces bourreaux et beaucoup de ces victimes, même avant le génocide. C'est-à-dire que la question du lien social entre les Hutus et les Tutsis au Rwanda avant le génocide était plus complexe que ce que pourrait nous laisser penser le fait que, par exemple, il y avait des gens qui étaient mariés à des Hutus ou à des Tutsis, et des choses comme ça. Je vais vous donner quelques éléments pour expliquer un petit peu cette complexité. Par exemple, à la fin des années 80, le nombre de Tutsis dans la population diminuait. En fait, la population Tutsi commençait à être assimilée par la majorité Hutu. Et cela pour un certain nombre de raisons. La première, enfin il y en avait trois, je ne vais pas les mettre en... Bon, la première, c'est d'abord la multiplication des intermariages entre Hutus et Tutsi. Mais ces intermariages-là étaient souvent à sens unique. C'était des hommes Hutus qui mariaient des femmes Tutsi, mais à 95% environ. Deuxièmement, c'était le changement d'ethnie, c'est-à-dire que les Tutsis qui corrompaient ou alors par complaisance l'autorité locale, changer leur identité ethnique dans leur papier. Et troisième élément, c'était le mariage tardif des hommes rwandais, ou même le mariage des hommes tutsis, ou même pas de mariage du tout, à cause notamment de leur précarité sociale. Donc ça, c'était avant le génocide. Et on pourrait penser que l'assimilation d'un groupe qui était censé être en mauvais terme serait une bonne chose. Pas si clair que cela. Pas si clair que cela. À savoir, quand même, il y avait une relation de domination dans beaucoup de secteurs de la société. Il y avait une relation de domination. Et donc, cette relation de domination, lorsque l'injonction génocidaire va venir, elle sera suivie d'autant plus fortement qu'effectivement, les relations n'étaient pas complètement égales et les relations n'étaient pas de l'ordre du familial qu'on pourrait penser de façon générale. Donc aussi, problématise la question de la relation entre Hutu et Tutsi, même avant le génocide. Rapidement, je voudrais quand même, d'une part. D'autre part aussi, avec la question du génocide, un certain nombre de débats ont été, notamment par les génocidaires, ont été soulevées, à savoir, génocidaire, ils expliquaient un petit peu le génocide en parlant d'une espèce de haine ancestrale entre Hutu et Tutsi. En disant, en reprenant un petit peu l'argumentaire parmi Hutu de la domination pendant 4 siècles de Tutsi contre la majorité Hutu et d'autres éléments comme cela. D'une part. D'autre part aussi, maintenant, il y a ceux qui dénoncent le génocide, notamment les gens qui seraient peut-être plus proches du FPR, par exemple, qui, quelquefois, donnent une image un peu idéale des relations entre Tutsi et Hutu, avant la colonisation en particulier. Moi, je rejette un peu les deux, parce qu'il faut historiciser aussi ces relations-là. Et c'est important aussi là, pour la suite. C'est important pour la suite, parce que comme je vais rapidement essayer de le montrer, il y a eu, c'est vrai, beaucoup de ruptures dans l'évolution de ces relations-là, mais aussi des continuités qui ont aussi existé. Et il faut aussi pouvoir prendre en considération ces continuités-là. Et d'abord, la question de la domination des Hutus contre les Tutsis. Je vais prendre peut-être un raccourci très rapide. Alors que l'intégration des Hutus dans les instances de pouvoir avait beaucoup diminué après la colonisation, qui avait essayé d'ethniser l'administration ou l'autorité politique locale. Aussi tard que 1955-54, il y a une étude qui a été faite par un professeur belge qui montrait que si on mettait à côté 400 familles Tutsi, le reste de la population Hutu et Tutsi avait à peu près les mêmes niveaux de vie. Ça veut dire que quand on parle de Hutu-Tutsi, il faut revenir aux fondamentaux de ces appellations-là, jusqu'à un certain point. Les Tutsi n'étaient pas une élite, il y avait une élite Tutsi. Mais la grande majorité des Tutsi partageaient les conditions de vie de l'ensemble de la population. Mais ça, c'est quelque chose qui est difficile à intégrer dans l'imaginaire aujourd'hui des gens. Mais oui, les Tutsi étaient une population tout à fait ordinaire comme les autres. Simplement que beaucoup d'entre eux étaient plutôt plus d'élevage que d'autres choses. Rapidement. Un autre élément aussi qu'on prend en considération, c'est aussi, on ne peut pas parler de Hutu-Tutsi, de relation entre Hutu-Tutsi, sans parler de l'État précolonial. L'État précolonial est une création qui est basée sur un partage de pouvoir entre trois groupes en particulier. Un groupe de ceux qu'on pourrait appeler des agriculteurs, qui ont été traditionnellement des agriculteurs, et deux groupes de pasteurs. Un groupe de pasteurs qui était là depuis extrêmement longtemps, même avant les Hutus d'ailleurs, même avant les agriculteurs, parce qu'à l'époque on ne parlait pas de Hutus et de Tutsi, et un autre groupe de pasteurs qui, eux, sont d'arrivées plus récentes. Et en fait, quand on parle d'invasion hamitique, entre guillemets, c'est effectivement, ça correspond un peu à une migration relativement tardive d'un certain nombre de pasteurs, mais qui était minoritaire par rapport aux pasteurs qui étaient sur place depuis très longtemps. Et ça, on l'apprend par de nouvelles études qui n'existaient pas dans les années 60 et dans les années 70, à savoir la génétique, les études de plantes et d'autres, et pas des études de discours. Mais le plus surprenant, c'est que ces traces de ce peuplement profond, de pasteurs profonds dans le territoire qui aujourd'hui correspond au territoire rwandais se retrouve dans la mémoire historique rwandaise et se retrouve dans les récits historiques rwandais. On peut lire Kagame, par exemple. Il parle d'une population qui était là depuis très longtemps, ce qu'on appelle Abalenge. Abalenge, il en parle. Et maintenant, comme il reprend un peu le discours des migrations envahissantes, ensuite il passe à. Il ne voit pas la contradiction entre les deux. En tout cas, il ne la relève pas. Pourtant, elle est fondamentale. Toujours est-il que l'État rwandais, précolonial, est un partage de pouvoir entre trois types de populations. Population d'origine agricultrice et deux groupes d'origine pastorale. Mais maintenant, l'ensemble des structures de l'État à l'époque, qui était faible, hein, qui était organisé plus ou moins, qui avait beaucoup de faiblesses et qui est très petit et qui a été assemblageant doucement. Mais la faiblesse tangible de cette stèle-là était contrebalancée par une très grosse force idéologique. Le Rwanda, la sélection rwandaise traditionnelle, a très peu de facteurs tangibles, mais elle est extrêmement riche dans les récits historiques. dans l'analyse des récits historiques, dans tout ce qui est culture verbale, mais extrêmement riche. Et notamment, par exemple, il y a des récits historiques qui datent de 400 ans. Et par exemple, comme je viens de vous le dire, on trouve des traces de véracité extrêmement troublantes, notamment dans ce qu'on appelle les récits traditionnels, qu'on pourrait rejeter et qui, quand on regarde avec acuité, révèlent des choses importantes. Toujours est-il que l'idéologie nationale rwandaise, précoloniale, mettait l'accent de façon extrêmement forte sur la nation rwandaise, sur le fait d'être rwandais. Et comme je vous dis, il y avait un différentiel entre ses capacités matérielles et l'investissement qu'ils avaient mis dans le discours idéologique. Et beaucoup d'historiens ont voulu déconstruire, surtout des historiens qui sont venus après la colonisation, ont voulu déconstruire un petit peu l'importance de l'État rwandais, mais ils l'ont déconstruit sur un mauvais plan. Ils n'ont pas vu la richesse et la force idéologique. Alors, ce qu'ils faisaient, c'était de voir un petit peu les faiblesses politiques, les faiblesses sociales de l'État, mais sans voir la force extrêmement forte de l'idéologie nationale, et qui mettait l'accent sur l'État, qui mettait l'accent sur le Rwanda qui est grand, qui ne doit pas être attaqué, mais qui attaque, dans lequel, non seulement grand, mais aussi qu'il y avait une centralité dans leur vision du monde, à savoir que le Rwanda était le centre du monde, Dieu passait la journée ailleurs et passait la nuit au Rwanda. Et quand il y a eu une première rencontre entre les Rwandais et les Allemands, la première délégation qui apportait les colons allemands, il y a eu un choc des perceptions. Parce que les Rwandais se sentaient le centre du monde, les Allemands se sentaient supérieurs. Il y a eu un choc extrêmement fort. Ce n'est pas un choc armé, mais ça a été un choc social et psychologique, parce qu'on a les récits des deux côtés. Et effectivement, les Rwandais ne comprenaient pas les attentes de soumission des Allemands, que vous parlez, alors qu'eux sentaient le centre du monde.
Tu peux passer directement là, à la reconstruction aujourd'hui.
Ok. Je vais parler quand même de certaines ruptures. Première rupture, fin de la colonisation, fin de la période coloniale, une situation sociale extrêmement dure avant la fin de la colonisation et qui apporte un certain nombre d'institutions qui sont assez dures et même exploitatrices. C'est notamment des institutions qui régulent l'accès à la terre, qui donnent l'accès à la terre plutôt à l'autorité politique et comment on appelle ça, et l'enlève des populations à la base. Donc ça c'est à la fin de la période précoloniale, avec d'autres institutions aussi, notamment le travail rémunéré, parce qu'il n'y avait plus suffisamment de terres, et donc pour pouvoir survivre, les pauvres devaient venir et vendre leur force de travail, ce qui n'existait pas 50 ans avant la colonisation. Donc il y a eu un durcissement des relations sociales à cause de la crise extrêmement profonde qu'a traversé le pays, et notamment dû à la surpopulation. Deuxième rupture, c'est l'interdiction des rites religieux rwandais, et notamment le Kubanda. Kubanda, c'est un rite particulier qui faisait une espèce d'inversion sociale. À savoir que dans le Kubanda, il y avait un roi et une reine de cérémonie, et ce roi et cette reine de cérémonie, et les autres devaient se soumettre à eux, pouvaient être un Hutu, pouvaient être un Twa, pouvaient être un petit Tutsi, pouvaient être n'importe quoi. Donc c'était une espèce de rite qui retournait un peu les conventions sociales. Et d'autre part aussi, c'était un rite qui mettait vraiment ensemble, parce que quand on était dans le même groupe de Kubandois, qu'on soit un Hutu, un Tutsi ou alors un notable, il y avait un fort élément d'appartenance dans les groupes de Kubandois. Autre rupture extrêmement importante, c'est la révolution, bien entendu, qui cette fois redessine complètement l'identité de l'État, mais aussi des groupes sociaux. L'État devient un État Hutu, d'une part, et d'autre part, les Tutsis deviennent des ennemis des Hutus, qui doivent être soit tués, soit être soumis, et s'ils se révoltent, doivent être tués. Il y a des discours par rapport à cela. Et ça, ça va changer profondément parce que les relations sociales, parce que tout d'un coup, surtout sous l'époque abgalimana, il y avait une domination physique des populations. À savoir que, par exemple, dans le quelqu'un, je pense, il y a quelqu'un qui a parlé du camp de Nyamata. À Nyamata, les autorités locales obligeaient les gens qui étaient là à donner leur fille à épouser, mais de force. En plus, ils devaient aussi payer la cérémonie de mariage. Donc, c'était une domination vraiment physique, surtout sur la période abgalimana et la période kayibanda. Sur l'époque abgalimana, ça a continué, mais de façon un peu plus soft. Mais toujours est-il que tout cela fait que ces relations sociales, qui étaient même extrêmement proches, n'étaient pas sans ambiguïté. 10 minutes, hein. Merci. Voilà. Et par rapport à tout cela, donc, maintenant les mécanismes de reconstruction en tant que tel, il y a une personne qui a joué un rôle extrêmement important dans les processus de reconstruction au Rwanda, dans les mécanismes qui vont être mis en place, c'est le préfet, l'ancien préfet de Kibungo. À Kibungo, c'est une région assez particulière, il y avait des problèmes particuliers. Ça veut dire qu'il y avait un certain nombre de groupes de la population, des Hutus, des Tutsis qui avaient quitté le pays en 1959, des Hutus, et voilà, en particulier, qui se disputaient des terres, les mêmes terres, en disant, moi, j'ai quitté cette terre-là, c'était celle de ma famille, et puis d'autres qui disaient, non, j'ai reçu cette terre-là à la Révolution, et d'autres aussi, ensuite il y a eu d'autres migrations et tout. Et ça a créé une situation de très grande violence. Donc, Kibungo, on trouvait des cadavres le matin dehors. Ça, c'est après le génocide. Et le préfet de Kibungo a essayé de faire la paix avec eux. Et finalement, il a tout essayé. Il a prêché l'unité, la concorde, ça ne marchait pas. Et finalement, il a commencé à faire recours à des processus culturels. Et le premier, c'était le Muganda. Le Muganda, c'est les travaux communautaires traditionnels qui pouvaient se faire dans des communautés. Quand il y avait un travail important à faire, la communauté s'est mobilisée pour faire ce travail-là. Et Abgalimana avait récupéré le concept avec des travaux communautaires forcés tous les samedis. Et le FPR était très, très critique par rapport à ça pendant sa période de lutte. Et le FPR a adopté le Muganda. Pourquoi adopter le Muganda ? Parce que le Muganda s'est avéré extrêmement efficace, à savoir que des groupes de population qui ne voulaient pas se parler, qui s'évitaient, qui se regardaient en chaîne de faïence, tout ça, le fait de les obliger à travailler ensemble, effectivement, commençait à mener une espèce de cohésion jusqu'à un certain point. Et à partir de cela, il y a toute une série de processus de mobilisation pour le développement qui ont été mis en place, tous s'inspirant de la tradition. Il y a Muganda, il y a Ubudehe aussi, qui est un système dans lequel la communauté se met ensemble pour faire des listes des plus pauvres qui devraient recevoir des aides et tout ça. Et ça, c'est extrêmement efficace quand Hutu Tutsi, rescapés venus de l'extérieur, tout ça, se mettent d'accord pour savoir de façon objective quels sont les gens vraiment qui méritent d'être soutenus. Et quand les Hutus voient que ce sont eux notamment qui, enfin certains d'entre eux, sont dans la liste de façon tout à fait objective, c'est des mécanismes extrêmement puissants de cohésion. Il y a Gilinga, c'est une reprise du don de vache qui existait traditionnellement. Encore une fois, il faut faire attention, beaucoup de Rwandais étaient agro-pastorales, même si c'était essentiellement pastoraux ou alors essentiellement agriculteurs, les Hutus aussi connaissaient la vache et aimaient les vaches. Et donc le don de vache dans la culture rwandaise, c'est un signe d'amitié extrêmement important. Et le gouvernement l'a reprise, et maintenant c'était un don de vache qui était donné aux gens aux nécessiteux dans la communauté. Et tout ça a fait que, il y a d'autres éléments, je ne vais pas trop m'y attarder.
Hein ? Une bonne idée. Voilà. Il faut conclure, parce que les deux autres, il faut aussi qu'ils parlent.
Voilà. Mais maintenant, il faut voir aussi que entre la fin du génocide et aujourd'hui, ça n'a pas été un processus linéaire de cohésion sociale entre les principaux groupes dont je parle ici. Il y a aussi, pour prononciation, la question de Gachacha. Gachacha a été un élément disruptive, a été un élément de, d'interruption et de retour en arrière, en fait. Parce qu'un tcha-tcha a causé d'énormes tensions sociales dans le pays, et alors que des choses qui ne se faisaient plus ont commencé à réapparaître, à savoir la tuerie, mais alors des centaines hein, de rescapés, la tuerie, les tueries de témoins pour l'accusation, ou tout qui avait assisté. Donc, durant la tcha-tcha, il y a eu une résurgence des tensions extrêmement fortes. Et à cause de cela, il y a un certain nombre de lois qui ont été prises, notamment la loi sur les objets de génocide, aussi extrêmement forte pour répondre à tout cela. Et ce qu'on a vu, c'est que quand la tcha-tcha s'est terminée de façon abrupte, les actes d'hostilité ethnique ont pratiquement disparu, mais de façon abrupte. Et depuis 1912, c'est là où l'essentiel de la tcha-tcha, 2012, la tcha-tcha est terminée, on ne retrouve plus ce type d'hostilité ethnique, que ce soit des insultes, juste comme ça. Juste, je termine tout de suite.
Tu conclues, s'il te plaît.
Oui. Maintenant, la question de savoir, est-ce que la cohésion sociale au Rwanda a vraiment fait des progrès, oui ou non ? Il faut d'abord être pragmatique. S'il n'y a pas des actes d'hostilité, oui, jusqu'à un certain point, il faut être pragmatique. Il ne faut pas non plus chercher les petites bêtes, quelquefois, il faut être pragmatique. Est-ce que cette cohésion est profonde ? Ça, c'est un autre problème. Il y a des sondages qui ont été faits, et effectivement, on se rend compte qu'il y a encore, bien sûr, des tensions. Et maintenant, quand on fait ce genre d'évaluation, il ne faut pas faire une évaluation en prenant le temps des journalistes. Il faut prendre le temps des populations, et peut-être même le temps de la recherche. Et qu'est-ce que nous dit la recherche ? La recherche nous dit que pour transformer les mentalités, quelles que soient les mentalités, ça prend au moins une génération. À savoir que les protagonistes directs du génocide et ce qui s'est passé après peuvent se retenir, peuvent essayer de changer tout ça, mais ils sont profondément marqués. Mais qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que les nouvelles générations, donc les gens les plus jeunes, sont beaucoup plus détachés de ces questions-là.
Je pense qu'on va arrêter.
Juste une toute dernière. Voilà. Mais finalement, si on regarde un petit peu pourquoi le génocide a eu lieu au Rwanda et pourquoi il a eu lieu de cette façon-là, les populations, un peu partout dans le monde, les populations directement, on peut les manipuler assez facilement. Ce qui fait que on a parlé beaucoup des faits qui ont poussé les gens à commettre le génocide et à participer au génocide, mais on parle moins de ceux qui n'ont pas marché et qui normalement est un frein social à ce genre de dérive-là. Le principal frein social à ce genre de dérive-là, ce sont les corps intermédiaires. Ce sont les corps intermédiaires qui prennent en même temps une espèce d'intermédiaire entre l'État et la société, qui peuvent notamment freiner ce type d'injonction-là. Et une des choses qu'on voit au Rwanda, c'est que les corps intermédiaires au moment du génocide avaient été complètement contaminés par le génocide. En premier, l'Église. Et c'est peut-être le commentaire que je vais faire par rapport au premier panel, hein, à savoir qu'il faut aussi prendre en considération la question de l'Église, pas seulement à l'interne, il faut aussi voir aussi la question de l'Église dans l'ensemble. L'action de l'Église, et notamment le clergé et les prêtres, comme le principal corps intermédiaire qui était au Rwanda. Et une fois que ce corps intermédiaire-là a été acquis au génocide, c'est difficile que ça ne se passe pas. Mais ça a été aussi la même chose pour les organisations de droits de l'homme. Toutes les organisations de droits de l'homme ont été divisées entre génocidaires et anti-génocidaires, et les anti-génocidaires, c'est-à-dire qui ont été tués par les génocidaires. Je parle que de Hutu. Les partis politiques, les organisations de développement. Donc, en fait, l'ensemble des corps intermédiaires se sont tournés vers l'exécution des génocides. Et dans ce cas-là, dans un pays aussi pauvre, dans un pays avec autant de fragilité, la population a eu peu de chances de pouvoir résister. Merci.
Merci. C'était très intéressant, mais nous avons ici deux personnes à écouter. Merci.
Alors, je vais essayer en 10 minutes. J'enchaînerai en disant que d'abord, je suis contente que vous ayez appelé ça les reconstructions, parce qu'il n'y a pas une reconstruction. Il y en a sur plusieurs plans et sur plusieurs temps. Et vous avez parlé de temporalité ici. Bon, je ne fais pas les remerciements d'usage, hein, Stéphane, je suis désolée, mais. Je pense que la psychanalyse, on la pense toujours comme la science de la psyché individuelle. mais il y a tout un pan de la psychanalyse qui se penche sur le collectif et sur l'articulation entre l'individu et le collectif. Et en face de catastrophes comme les génocides, on est obligé de penser individuel et collectif en même temps, parce que le génocide, tous les génocides, attaquent en même temps le sujet privé, l'individuel, et tout son groupe d'appartenance, plus le groupe de ceux, les perpétrateurs, ceux qui le font. Donc de toute façon, on ne peut pas penser seulement groupe ou seulement individu, on doit les articuler ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans un génocide, et le Rwanda, de ce point de vue-là, est malheureusement un terrible cas d'école, c'est pour ça qu'il nous apprend beaucoup de choses, à part la sympathie et l'application que nous avons, c'est qu'on voit comment tout, comme dans tout génocide, mais tous les corps, vous disiez intermédiaires, mais moi je ne parle pas politique, c'est-à-dire que dans un génocide, on touche l'individu et on touche toutes les institutions du groupe. C'est toutes les institutions du groupe désignées comme devant être tuées qui sont visées. Les institutions de soins, les institutions de culture, les institutions de justice, les institutions, ben la première institution, la famille, les traditions, tout ça est destiné à être détruit en même temps. Or, ces institutions dans un groupe, ce sont celles qui permettent l'articulation entre le sujet individuel et la société. Donc, dans un génocide, à la différence d'un meurtre de masse, ce qui est visé, et ce qu'on arrive souvent à détruire presque complètement, c'est le sujet et son collectif. Donc, on est bien obligé de repenser comment on retisse ces institutions, comment on les reconstruit, parce qu'elles sont détruites en même temps. C'est-à-dire que, normalement, dans un meurtre de masse ou une catastrophe naturelle, le sujet peut s'appuyer sur des institutions. Là, elles sont détruites en même temps. Elles sont visées et détruites. Donc, évidemment, la reconstruction doit se faire à un niveau groupal et individuel. Sauf qu'il y a un problème. Et ça, en tant que psychiste, vous le dis, c'est pas les mêmes rythmes, c'est pas les mêmes temporalités. Dans la reconstruction, on a affaire à des temporalités différentes. Et il faut les prendre en compte. Et quelquefois, elles s'opposent. Par exemple, une temporalité de l'État, d'un chef d'État qui doit déclarer, qui doit remettre un pays sur pied, n'est sûrement pas la même, même s'il veut prendre en compte tout ce qui s'est passé, les survivants. Il est obligé, on a vu ça dans l'exposé du monsieur 16e, excusez-moi, j'ai oublié son nom. C'est-à-dire qu'on est obligé, ça a été un peu, de déclarer quelque chose qui, évidemment, va à un moment faire violence à d'autres. Mais si on ne déclare pas ce temps de latence, cette unité, etc., on a besoin de ces cadres sociaux. Sinon, rien ne peut se faire, ni la justice. Or, sans la justice, il n'y a pas de reconstruction possible. Le temps de la justice est un point très important. Et pour le sujet individuel, s'il n'y a pas le temps de la justice, il ne peut pas se reconstruire. C'est-à-dire qu'un sujet individuel, les survivants, ne peuvent pas, sans s'appuyer sur un collectif, sur un social qui va les étayer, même si de temps en temps il n'en est pas content et qu'il les contraint. Un survivant ne se remet pas comme ça tout seul dans le vide. Il s'est trouvé dans le vide. Il a été exclu du pacte de l'humanité. C'est Jean Améry, l'écrivain survivant, qui dit « Le premier coup reçu fait voler en éclats la confiance dans le monde. » Mais pour que cette confiance dans le monde qui environne le pays et puis l'humanité, et Dieu sait que dans le génocide des Tutsis au Rwanda, la confiance dans le monde, elle a été largement ébranlée, voire détruite, j'espère que pas complètement, mais eh bien, s'il n'y a pas un cadre social et un cadre groupal et une volonté collective en même temps, il ne peut s'étayer sur rien. Or, il doit se réétayer pour faire son travail individuel. Mais le travail individuel ne se décrète pas. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'on peut décréter des reconstructions sociales, et vous avez montré, il y a toutes sortes d'institutions, ça c'est très important. Mais le temps individuel, non seulement il ne se décrète pas, mais il n'est pas homogène, suivant les âges, les situations d'avant, les forces psychiques, les situations sociales d'après, qui a été touché, comment le survivant se retrouve, qui il a perdu, quelquefois il a perdu tout le monde, et tout ça doit être pris en compte, et c'est-à-dire qu'il y a ça nous force Ce qu'il y a dans le traumatisme, c'est qu'il nous force à la créativité. C'est pas drôle, mais dans l'après-coup, il nous force à trouver toutes sortes de structures et de solutions, tant pour les psychologues que pour les sociologues, que pour les politiques. Le traumatisme éteint la pensée au moment où il se passe, mais il nous force après à penser, à créer et à trouver des formes. Je ne peux pas les détailler, mais on est maintenant, et 25 ans, comme tu as dit, c'est à la fois loin et très peu en termes de reconstruction même d'un pays, mais évidemment du psychisme individuel, c'est rien. C'est une génération, c'est à la fois très important, mais il va falloir cette spécificité du génocide qui a détruit toutes les structures intermédiaires, et bien tout le travail, c'est de retrouver, de retisser ces structures qui vont permettre au sujet individuel, à son rythme, que personne ne peut lui dicter, mais on peut l'aider, on peut l'écouter, et on disait, on a beaucoup parlé de l'indicible ou l'inaudible, c'est la vraie question, on se l'est posé déjà pour la Shoah. C'est indicible, mais c'est une notion paresseuse, l'indicible, pour moi. Je pense que l'inaudible, il faut créer ces cadres individuels, sociaux. Alors, le témoignage, et je suis contente d'entendre, mais on le sait déjà, que l'histoire, maintenant, a intégré le témoignage dans sa recherche et ne l'a plus gardé dans cette espèce de suspicion qui, depuis Norton Crewe, etc., il y avait toute cette suspicion. Donc, tout ça nous force à la créativité, tous autant que nous sommes, et à l'interdisciplinarité, puisque moi, je ne suis pas historienne, mais il est bien évident que dans tous les forums, je réfléchis, j'entends beaucoup de choses, des historiens, des philosophes, parce que la question du mal, la question de pourquoi un génocide, qu'on soit historien, qu'on soit psychologue, qu'on soit psychanalyste, qu'on soit sociologue, on se la pose. Et comme a dit Stéphane, on n'a pas une réponse. On peut contextualiser, comprendre des choses, ça ne veut pas dire expliquer. Et tout ça mis ensemble, je pense que l'interdisciplinarité est la base de notre réflexion et elle doit continuer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.
Merci.
J'ai pu, hein ?
Oui.
Bravo, Coco. Vas-y.
Bon, moi, j'ai commencé par remercier Marcel Camonda parce que je dois beaucoup.
Ne fais pas de remerciements.
Si, j'y tiens, c'est parce que c'est en étant cambodgienne, en étant rescapée, il m'a fallu aller sur place au Rwanda. Jusqu'à là, j'étais mise en latence, j'ai bien retenu. C'est-à-dire, je n'étais pas prête à faire un travail de retour sur mon propre passé, sur l'histoire de ma famille. Et il m'a fallu me confronter à un autre génocide pour enfin oser travailler, comprendre ce qui s'est passé dans mon histoire et dans mon pays. Et aussi remercier Stéphane Audouin-Roseau, qui il y a quelques années qui m'a invité comme chargée de conférence ici à l'EHESS, où j'ai pu enseigner sur le génocide cambodgien. Et actuellement, je poursuis cet enseignement au nouveau collège d'études politiques, qui a un axe d'enseignement consacré sur violence et politique. Donc, je voudrais parler justement de Ritipan, qui a consacré dans la reconstruction collective à travers ses films comme Bopana, une tragédie cambodgienne, le film le plus connu de Riti, c'est S21, la machine de mort Khmer Rouge, et enfin Douk, le maître des forges de l'enfer. Cette trilogie nous donne à comprendre justement l'appareil génocidaire en confrontant les bourreaux et les victimes à S21 même, qui est le centre d'extermination qui est aujourd'hui le musée du génocide à Phnom Penh. Mais après cette trilogie qui a duré plus d'une quinzaine d'années, après son film Douk, le maître des forges de l'enfer, Ritipan est tombé en grave dépression. C'est comme si, après avoir porté l'histoire collective à essayer de reconstruire les liens institutionnels dont tu parlais tout à l'heure, eh bien, il s'est confronté, lui, en tant que jeu, en tant que... Et donc, ça, il a pu reconstruire, revenir à lui-même pas à pas à travers un livre qu'il a coécrit avec Christophe Bataille qui s'intitule « L'élimination » et le film charnière dans sa carrière, sur le fond et sur la forme, qui est « L'image manquante », puisqu'il... Enfin, il raconte l'histoire de sa famille, sa propre traversée du génocide lorsqu'il avait 11 ans, de 11 ans à 14 ans, à travers les figurines en terre d'argile. Parce qu'il a enfin quitté, je vais dire, la quête de la preuve. Il avait lu dans un registre de de S21 fait par un cadreur Khmer Rouge, qu'il avait fait des photographies des exécutions. Et pendant 25 ans, il a cherché cette image preuve à la campagne, en ville, à travers. Et il a fini par accepter que cette photo, au fond, tant mieux qu'elle n'existe pas, il va la fabriquer. Fabriquer au sens, fabriquer des archives œuvres, des archives qui sans archives, par exemple, la déportation des habitants de Phnom Penh, hein, ou de montrer à travers les figurines et les reconstitutions topographiques, les villages, comment c'est, lui-même à travers son témoignage, et reconstituer ce qui est sans archives. Donc Rétipan, il lui a fallu 38 ans avant d'assumer sa part de témoin. Témoin au double sens, donc testis, c'est-à-dire attester ce qu'il a vu et entendu, et superstes, c'est-à-dire en tant que survivant, c'est-à-dire celui qui est revenu d'entre les morts, je dirais, pour Rétipan, au sens propre, au sens figuré, parce qu'à 13 ans, les Khmer Rouges lui imposaient de transporter les cadavres tous les matins, des cadavres qu'il repérait dans les hôpitaux, qui sont des mouroirs au Cambodge. Et pour comprendre l'idéologie génocidaire des Khmer Rouges, c'est le terme Khamtek. Khamtek qui veut dire que Duk, le directeur de S21, donne lui-même la définition. Eh bien, Khamtek signifie, c'est détruire le nom, l'image, le corps, tout. On ne respecte pas la civilisation, la culture, les traditions. On détruit l'ancien monde pour en construire un nouveau. Donc Khamtek, pour moi, est le terme qui définit, c'est un processus génocidaire, c'est-à-dire réduire en poussière, c'est-à-dire là, il y a le double effacement, l'effacement des corps, mais l'effacement de toute trace. Et dans le deuxième film autobiographique qui s'intitule L'Exil, qui est sorti en 2016, donc je vais montrer peut-être une minute tout à l'heure, où il revient sur les trois définitions qu'il donne de l'exil. L'exil, qui est un déplacement d'un territoire à un autre, c'est ce qu'il a vécu à la fin du génocide, lorsqu'il, en 1979, il a décidé de quitter le Cambodge alors qu'il était adolescent et qu'il a traversé un camp de réfugiés avant d'arriver en France. Un autre sens d'exil pour lui, c'est aussi le déracinement, c'est-à-dire quand il a été déporté comme 2 millions de Cambodgiens de toutes les villes du Cambodge, parce que les villes étaient considérées comme impures et impérialistes. Donc ce déracinement, ça renvoie à la désolation dont a travaillé Hannah Arendt, c'est-à-dire la désolation, c'est-à-dire l'abandon de la communauté, l'abandon de la confiance en soi, cet isolement extrême. C'est ce qu'il a vécu sous les Khmer Rouges. Et enfin, il donne une troisième définition de l'exil, qui est la résistance. Résister, si on regarde l'étymologie de résister, c'est-à-dire se tenir debout, c'est-à-dire préserver, regagner sa propre dignité. Eh bien, il a intitulé, pour lui, l'exil sous les Khmer Rouges, c'est cette capacité, cette ressource humaine de pouvoir se réfugier dans les souvenirs. On peut dire que, d'une certaine manière, que les souvenirs, c'est le meilleur des refuges. Et donc, cette capacité, pour lui, d'imaginer, de chanter, parce qu'il faut savoir que sous les Khmer Rouges, il était interdit de faire des photos, il n'avait pas le droit de posséder des photos de la famille d'avant, on n'avait pas le droit de chanter une chanson d'avant 75, et bien rien que pour lui, pouvoir chanter dans sa tête les chansons d'avant, c'était sa manière de résister. Voilà, donc c'est un peu bref, mais voilà, je voulais vous montrer, si vous voulez bien, juste une minute, parce que comme on travaille sur l'art et sur les images, je voudrais juste finir sur... Et après, je finirai mon intervention là-dessus.
On va voir à l'écran. Ah oui, le son.
C'est là.
Voilà, c'était juste vous montrer que cette capacité de se souvenir de la vie d'avant, comme il disait, c'est pas un monde parfait, mais profondément humain. Ce pouvoir de se déplacer, de pouvoir chanter, c'est ce que les Khmers rouges nous ont enlevé. Merci.
Alors, je remercie les intervenants de cette troisième table ronde, de cette table ronde auquel on a laissé comme temps véritablement les miettes du temps qui nous était accordé. Je leur demande infiniment pardon. Je les remercie aussi pour leur patience parce qu'ils étaient là depuis le début. Quand même, je vous remercie aussi à vous tous. Je pense, Stéphane, que nous devons libérer la salle.
Et j'ai téléphoné, c'est pour ça que excuse-moi, j'étais attendu au service des salles pour savoir si on pouvait déplacer, mais il y a une conférence publique de l'ISM prévue à 18h.
Ouais.
Donc, malheureusement, voilà, on ne peut pas pousser l'horaire.
De toute façon, il n'y a pas de mot de la fin sur ce sujet-là.
Oui, sauf s'il y avait juste une question, comme ça on sort à moins 5. Est-ce qu'il y a une question ? 3-4 minutes, trop. Voilà, une question soit à Jean-Paul, soit à Régine, soit à ce que faire. Et à moins 5, on libère la salle et je vous remercie à tous de votre compréhension.
Non, mais on peut finir comme ça.
Vous êtes écrasé par
le
temps.
Le temps, voilà. Je pense que c'est, on peut se...
Je pense que vraiment, on est écrasé par le temps et on peut terminer comme ça. Je pense, en plus, je pense que tous les intervenants à cette table ronde, que ce soit de la première, la deuxième et la troisième, il y avait quand même véritablement un lien sur la mémoire, le souvenir, la transmission. Et puis, cette reconstruction des personnes qui passe par la reconstruction des institutions, comme Jean-Paul l'a rappelé, et pour que la personne ait un appui et quelque chose sur lequel s'appuyer, c'est très important. Donc, je vous remercie à tous. Et merci à Stéphane pour la salle. C'est toi qui nous as obtenu la salle. Et merci aussi à l'école qui nous a accueillis.
L'idée était avec Marcel que dans cette semaine commémorative, la recherche ne soit pas absente. Et voilà, donc, on aurait aimé avoir plus de temps, plus d'organisation, plus de tout, mais enfin, elle n'aura pas été tout à fait absente. Voilà, merci.
Merci.